Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour, bonjour. Il faut le faire quand même. Mourir le lendemain de son anniversaire à 93 ans plus un jour. Il fallait le faire quand même, se mettre en grève de la faim à l'âge de 10 ans. Pas question pour la petite Gisèle de faire des tâches ménagères dont ses frères étaient exemptés. Plutôt mourir, avait-elle pensé. Ça avait marché. Il fallait le faire quand même, répondre en janvier 1974 à la télévision et avec un tel calme, répondre à une opposante farouche à toute idée d'interruption volontaire de grossesse.
Je le répéterai autant de fois que j'en aurai la force pour que ça soit dit une fois pour toutes et compris. Nous ne faisons pas de croisade pour l'avortement. Nous nous battons pour que les femmes soient libres de choisir leur maternité. Ça, c'est fondamental. Et l'important, voyez-vous, madame, c'est que si moi, je suis libre de choisir mes maternités, vous, quelles que soient vos convictions, philosophiques, religieuses, morales, vous aurez comme moi le droit de choisir. Je veux dire que si vous entendez ne jamais avorter et avoir un enfant, chaque fois que vous aurez un rapport sexuel, c'est votre affaire. Ce qui est intolérable, c'est que vous ayant fait ce choix, vous ayez la prétention de l'imposer aux autres.
Tout cela, elle l'a fait et bien davantage encore. Gisèle Halimi s'en est allée et peut-être avec elle une époque où les féministes avaient choisi de faire, en écho à celle qui aujourd'hui vocifère. Ce matin dans Culture Média, cap sur la Hongrie de Viktor Orban, le dernier site d'info indépendant Index, a vu son rédacteur en chef limogé et la démission par solidarité de 80 de ses journalistes. Nous serons en ligne avec l'un d'eux et le journaliste Daniel Pseni va nous décrire la situation inquiétante depuis Budapest. 20 ans déjà que des candidats demandent l'avis du public ou font appel à un ami, soirée qui veut gagner des millions samedi soir sur TF1. Nous serons avec la productrice historique de l'émission Jeux, Laurence Jaumont. Après 10 heures, un invité aux multiples visages, déguisé, grimé, boursouflé, Jonathan Lambert a enflammé bien des plateaux télé. Il peaufine son prochain One Man et joue ce soir sur France 2 dans le préquel de Fête des Gosses. Culture Média d'été commence maintenant. Bonne journée à vous. Et bonjour à vous Martin Cangelosi.
Bonjour Pascal, bonjour
ça
à tous.
Ça va, la gorge est raclée,
un peu
tout
mieux,
va bien.
Bon.
Place au journal des médias, qu'avez-vous dans votre poche kangourou aujourd'hui Martin?
Poche kangourou, vous le
pourquoi
savez
pas.
Vous l'avez vu. Prêt de vacances pour le CSA. Téléfoot, où es-tu, m'entends-tu? Et un doc à ne pas manquer ce soir sur France 2.
Allez les audiences, ouais.
Bah, si je vous dis d'ailleurs TF1, France 2, M6, qui est en premier pour vous hier?
Je ne sais pas.
TF1. Vous n'avez pas regardé Joséphine Ange Gardien. Vous étiez
j'avoue
pourtant 3 100 000 téléspectateurs devant TF1. Juste après, c'est France 2 avec le magazine de Stéphane Bern, Si les murs pouvaient parler. Et pour fermer le podium, M6 avec le magazine Maison à vendre, presque 2 millions de téléspectateurs.
Culture Média.
Le CSA vient de se prononcer sur un sketch de Canteloup qui avait fait grand bruit.
Le CSA comprend, ouvrez les guillemets, la très forte émotion, mais ne relève aucun manquement. Voilà pour les mots du CSA. Alors vous allez me dire de quoi s'agit-il. Il s'agit d'un sketch de Nicolas Canteloup le 6 avril dernier, diffusé sur TF1 dans C'est Canteloup, présenté par Alessandra Sublet. Ce jour-là, l'humoriste n'hésite pas à revenir sur un fait tragique. Une attaque au couteau en Isère. 2 personnes sont mortes. 5 ont été blessées. La française est en plein confinement et le caricaturiste parodie le ministre de l'Intérieur de l'époque, Christophe Castaner.
C'est un drame, mais notez que cela a permis de faire comprendre aux gens de l'Isère qu'il ne faut pas traîner dans la rue et plutôt rester chez soi. Alors, je vous l'accorde, la méthode est un chouïa extrême, même pour le préfet de Paris, Didier Lallement.
Oui, c'est un chouïa extrême pour moi.
Non mais attendez, vous êtes complètement fou de dire ça, c'est très grave, il y a eu 2 morts.
C'est très grave, vous avez raison de le rappeler, d'autant plus qu'il n'avait pas son attestation de sortie sur lui. Je peux vous dire que nous avons été intraitables et qu'il a donc logiquement écopé d'une amende de 135 euros.
Ouais, et la prochaine fois c'est 200.
Ce sketch pour le CSA, il n'y a rien à redire, c'est un programme d'humour et pas touche à la liberté d'expression.
Le CSA qui doit gérer une autre affaire, ça chauffe entre Canal+ et le monde du cinéma, c'est-à-dire aujourd'hui dans le Canard Enchaîné.
Canal+, c'est l'un des plus gros soutiens au cinéma français chaque année. Le groupe Canal, vous allez voir d'ailleurs, c'est important, le groupe Canal et pas la chaîne, doit verser 12,5% de ses recettes totales au cinéma européen, dont 9,5% au 7e art français. Sauf que selon le Canard, depuis l'arrivée arrivée de Bolloré. Il manque 40 millions d'euros pour les années 2017 et 2018. Alors ça, c'est pour les chiffres, mais il fallait les entendre pour comprendre. En coulisses, le CSA essaye comme il peut que tout rentre dans l'ordre. Sans trop brusquer, Canal+, se moque le journal satirique.
Comment la chaîne tente-t-elle de se justifier, Martin ?
Le groupe même, Canal+, dit que ses recettes
le
ont...
Le groupe,
vous allez voir, parce que la différence est importante, parce que Canal+, dit que ses recettes ont baissé depuis plusieurs années, après tout, c'est vrai. Mais Le Canard Enchaîné, justement, répond que Canal+, a décidé, dans son coin, de ne prendre en compte que son chiffre d'affaires télé de sa chaîne, donc, pour 2017 et 2018, et non plus le chiffre d'affaires de tout le groupe. Voilà pourquoi la contribution, de manière mécanique et artificielle, pour le cinéma est en baisse.
Voilà où est l'astuce. Je vous ai bien écouté hier, Martin Cangelosi.
Moi aussi.
Et vous disiez que Téléfoot serait disponible chez SFR. Est-ce qu'on sait quand, désormais ?
Eh bien, ce sera le 17 août prochain, lancement le 17 août pour Téléfoot. Mais aïe, 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 il y a urgence chez eux, parce que, bon, pour SFR, c'est signé, on le disait hier, avec un abonnement à 25 euros si vous prenez un engagement d'un an, 29 euros sans engagement. J'ai un peu l'impression d'être un marchand de tapis là avec tous ces chiffres. Mais alors, si vous avez une box Orange, Bouygues ou Free, pas sûr que vous ayez Téléfoot dans 3 semaines. Pour l'instant, rien n'est encore signé. Et du côté de Canal+, qui s'est fait voler ses matchs de Ligue 1 par Téléfoot, pas de rabibochage en vue pour l'instant. Les discussions sont toujours au point mort. Alors vous pourrez toujours trouver Téléfoot sur internet avec un site spécial qui a été lancé, mais aussi sûrement sur Facebook. Par contre, si vous voulez aller sur Twitter voir Téléfoot, pour l'instant, eh bien, c'est raté. Le compte de Téléfoot est suspendu depuis plusieurs heures. Le compte ne respecte pas, nous dit-on, les conditions d'utilisation de Twitter. C'est encore inactif ce matin, j'ai vérifié.
Évitez de taper dans le micro parce que ça fait mal aux oreilles.
Je parle beaucoup avec les mains, ouais. Je m'appelle Cangelosi, vous savez, c'est un peu...
Reste une question, Cangelosi.
Allez-y, Clark.
Que se passera-t-il s'il y a une nouvelle vague de Covid ou un autre confinement et que les matchs, du coup, les matchs de foot sont suspendus ?
Téléfoot va-t-il rembourser ses abonnés ? Réponse de ses patrons, oui, promis, craché, juré, personne ne paiera pour quelque chose qu'on ne diffusera pas. J'ai appris que vous aimiez beaucoup le foot, j'avoue que je ne savais pas qui vous soutenait.
Ah, ça vous regarde pas.
Vous allez vous abonner à Téléfoot ?
Non, trop cher. On termine avec France 2 qui ce soir rediffuse un portrait exceptionnel de Latifa Ibn Ziaten.
Latifa Ibn Ziaten, c'est dans Infrarouge ce soir. Latifa Ibn Ziaten, une femme dans la République, c'est le nom du doc. Alors Latifa Ibn Ziaten, c'est la mère de Imed Ibn Ziaten, l'une des premières victimes du terroriste Mohamed Merah. C'était en 2012. De cette peine immense, Latifa Ibn Ziaten, fille du Maroc, mère de 5 enfants, musulmane voilée, va épuiser un courage immense. Elle décide notamment d'aller là où a grandi Mohamed Merah, c'est-à-dire en banlieue de Toulouse. Elle veut rencontrer ses copains d'enfance, ses potes, ses voisins, ses connaissances. Elle veut rencontrer tout le monde, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Latifa Ibn Ziaten raconte des années plus tard à des lycéens ce qui s'est passé ce jour-là. Écoutez.
Et j'ai dit, s'il vous plaît, savez-vous où il habite Mohamed Merah ? Il y en a un qui a souri et m'a dit, madame, vous ne regardez pas la télé, vous ne lisez pas les journaux ? Mohamed Merah, c'est un martyr. C'est un héros de l'islam. Il a mis la France à genoux. Oh, j'ai dit, mon Dieu. Un jeune qui peut dire ça. Et je l'ai regardé, j'ai dit, vous savez la dame qui est en face de vous, là ? Je suis la mère de Ahmed.
Alors dans ce doc aussi, on voit Latifa Ibn Ziaten parcourir la France. Elle se rend dans les collèges, dans les lycées, dans les prisons aussi. Elle refuse que des enfants de la République, oubliés de la République même parfois, ne trouvent refuge dans le radicalisme. On a demandé à Yarmila Buzokova, la réalisatrice de cet infrarouge, ce qu'elle avait ressenti quand elle a posé ses caméras pour capter de tels instants entre Latifa Ibn Ziaten et la jeunesse.
Elle arrive à créer une espèce d'autorité auprès des jeunes parfois désœuvrés, turbulents. Elle arrive à leur parler et ils l'écoutent. C'est assez fascinant d'observer ça. Et j'aurais pu faire un deuxième film comme ça.
Voilà, Infrarouge, c'est ce soir à 22h40 sur France 2. Et si vous le manquez, vous ne le trouvez pas en replay, je vous conseille aussi Latifa, le cœur au combat. C'est un autre documentaire sur elle, d'Olivier Payon et Cyril Brody. C'est sur YouTube, vous pouvez le louer sur la plateforme.
Martin Cangelosi, le journal des médias. Merci et à demain.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
La Hongrie est en train de perdre son dernier média indépendant et ce dans l'indifférence de l'Union européenne. 80 journalistes du site Index, site volontiers critique envers Viktor Orban, ont démissionné vendredi dernier, geste spectaculaire de solidarité avec leur rédacteur en chef brutalement licencié. 10 000 personnes ont alors manifesté à Budapest au cri de « On est avec vous ». Bonjour Daniel Pseny.
Bonjour Pascal.
Vous êtes en direct de Budapest où vous vivez désormais. Vous êtes un ancien journaliste du Monde et vous êtes membre en France de la commission de la carte d'identité des journalistes. Daniel, 10 000 personnes vendredi dans la capitale hongroise, c'est beaucoup, un défilé dans le calme, mais une population déterminée à sauver ce qu'il reste du pluralisme. C'était ça le climat ?
Oui, tout à fait, parce que vendredi, s'est passé vraiment un événement très important. Malgré les orages, le début du week-end et les vacances, il y a eu quand même 10 000 personnes qui ont manifesté le long du Danube, jusque sous les fenêtres du Premier ministre Orban, pour exprimer leur solidarité avec le site d'information, d'Index. Comme vous l'avez dit quelques heures auparavant, 80 journalistes, soit la quasi-totalité de la rédaction, avaient démissionné suite au licenciement de leur rédacteur en chef. Par les hommes de confiance de Viktor Orban qui sont en train de prendre le contrôle du site à travers la régie publicitaire. Et comme Index ne vit que de la publicité, le risque est grand de voir le site étranglé économiquement. C'est d'ailleurs ce qu'avait dénoncé publiquement son rédacteur en chef, Chabolz Doul, et qui lui a valu un licenciement pour faute grave et divulgation du secret fabrication, on dit, les nouveaux propriétaires.
Daniel Pseny, comment décrire le travail du site Index qui existe ou qui existait, peut-être faut-il dire, depuis 99, vous diriez quoi, une sorte de Mediapart qui serait gratuit, c'est ça ?
À peu près, c'est un pure player généraliste gratuit qui a été créé en 99 et qui peut être vu aujourd'hui par près d'un million de lecteurs par jour. Alors, dans le paysage médiatique, totalement aux mains des fidèles de Viktor Orban, Index reste effectivement le seul média à faire de l'investigation sur les dérives politiques et économiques du pouvoir. Il dépend entièrement de la publicité. Mais avec la crise sanitaire, ses revenus ont drastiquement baissé. Et d'où ce plan de relance et d'économie qui a été élaboré par les nouveaux actionnaires. Alors, bizarrement, et on sait ce que ça veut dire, il propose une réorganisation de la rédaction avec une sous-traitance des sujets pour faire ces économies. Un plan de restructuration qui fait craindre aux journalistes une mainmise du gouvernement sur leur rédaction. Et qui a été dénoncé publiquement.
Aucune trace de cette manifestation de soutien à Index, évidemment, dans les autres médias hongrois. Tous maintenant sous la coupe du pouvoir ?
Quasiment tous, on peut dire, mais c'est une tactique assez habile de Viktor Orban. Simplement, c'est que maintenant, la tactique d'Orban, c'est de laisser la contestation se développer, finalement. Mais comme tous les médias, style la télé hongroise, qui ressemble étrangement à la télévision soviétique des années 70 du côté propagande. Personne ne parle de ce qui se passe de contraire dans le pays ou de ce qui est une contestation du pouvoir. Donc, il n'y a pas de... Personne ne sait, seulement à Budapest ou effectivement dans les grandes villes où c'est plus facile d'accès pour les médias.
Et grâce à vous, Daniel Pseny, nous sommes aussi en ligne avec l'un des journalistes du site Index. Bonjour, Andras Desjeux.
Bonjour.
Pourquoi avez-vous démissionné, comme la plupart de vos confrères d'Index ? Il n'y avait plus d'autres solutions ?
Oui, j'ai une réponse brève, brièvement. C'est une histoire très simple. Viktor Orban a essayé de trouver une solution, comment il peut contrôler Index. Et il y avait un plan de réorganisation qui vient de l'extérieur et pas de l'intérieur. Donc, cet plan de réorganisation a blessé l'autonomie de rédaction et on a décidé que dans cette circonstance, on ne peut pas travailler indépendamment parce qu'on ne voit pas les garanties de notre indépendance.
Donc plutôt, finalement, saborder le site plutôt que, effectivement, perdre son indépendance, telle a été la réaction de la plupart des journalistes du site d'investigation Index. Vous, Andras, vous êtes, ou vous étiez peut-être, journaliste d'investigation à Index. Quelles enquêtes avez-vous menées dernièrement en lien avec les méthodes du gouvernement Orban? Vous pouvez nous donner quelques exemples?
Il y avait beaucoup d'investigations, oui. La dernière était, par exemple, il y avait une haute diplomate hongroise, qui était diplomate à Pérou, et qui a commis un crime pédophile. Mais il y avait un procès contre lui, mais l'État, la police, les autres autorités ne rien disaient sur ce crime. Et j'ai découvert ça et on a écrit, c'était aussi pas bonne nouvelle pour le gouvernement, mais aussi j'ai enquêté sur le business de Orban et ses familles. Donc il y avait beaucoup d'influences russes, il y avait beaucoup d'articles sur
ouais.
Les influences.
Ouais, vous étiez encore en mesure d'enquêter et de publier vos enquêtes. Est-ce qu'il reste, Andras, quelques journalistes en poste à Index, ou alors on peut dire que ce site s'est terminé?
On peut dire que vrais journalistes ne restent pas. Mais je ne peux pas dire que Index est fini. Je pense que Index va marcher, mais je ne pense pas que ce journal reste sérieux, sérieux journal in futur.
Ouais, on comprend que voilà, comme vous dites, les vrais journalistes ont choisi de démissionner, donc ça veut dire qu'il en reste quelques-uns. Des faux journalistes, ou en tout cas des journalistes qui acceptent d'être sous la coupe du pouvoir. Andras, Daniel, restez avec nous s'il vous plaît en direct de Budapest. On va continuer à parler de cette situation quand même très inquiétante pour la démocratie en Hongrie. A tout de suite, vous écoutez Culture Média sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Pascal Clark.
On peut au moins reconnaître ça à Viktor Orban, prendre soin de tenter de masquer ses atteintes au pluralisme. Daniel Pseni, la manifestation de vendredi dernier à Budapest n'avait pas été interdite. Après tout, il aurait très bien pu le faire, le Premier ministre nationaliste.
Non, tout à fait. À Budapest, malgré tout, on peut manifester sur tous les sujets qui choquent. Il y en a beaucoup, mais il y a la tactique d'Orban est celle-là, c'est de laisser faire, mais de pas en parler. Et donc, il y a de nombreuses manifestations contre des déclarations de dirigeants sur les LGBT, sur des prises de position sur le travail, sur le Covid-19, etc. Mais il y a très peu de police, très peu de répression, comme on pourra peut-être l'imaginer. Et donc, moi, je l'ai vu à la manifestation de vendredi. Il y avait 50 policiers en calot, pas de police anti-émeute. Et la manifestation est arrivée sous les fenêtres de Viktor Orban avec quelques policiers casqués. Mais on imagine à Paris une manifestation de la République à la place Beauvau, ce que ça aurait donné peut-être.
Oui, on voit bien. Ouais. De la même façon, c'est quand même se donner du mal. Hein, noyauter la régie publicitaire du site Index pour l'assécher. Il aurait très bien pu, l'interdire carrément, non?
Il l'avait fait avant avec deux cas particuliers, notamment un autre site d'information en ligne indépendant qui s'appelait Origo. Et donc, il l'a noyauté pour en faire un simple relais de propagande. Alors, cette prise de contrôle d'Origo, elle avait été faite suite au licenciement de deux journalistes politiques qui avaient signé des enquêtes très dérangeantes sur les hommes proches d'Orban. Et ces licenciements avaient été suivis par aussi un départ de presque tous les journalistes du site, dont M. Dull, qui est devenu ensuite rédacteur en chef d'Index. Et en 2016, il y a eu quand même un cas très particulier de disparition du très populaire quotidien Népszabadság, qui était l'ancien organe officiel du PC hongrois. Et du jour au lendemain, il a été fermé brutalement pour des raisons financières par son nouveau propriétaire autrichien. Et le lundi matin, par exemple, les journalistes qui se rendaient à la rédaction ont tout simplement trouvé porte close et le journal n'existe plus.
Ah oui, bah là c'était radical au moins. Andras Desjeux, journaliste d'investigation à Index, est-ce qu'il reste au moins un média indépendant en Hongrie ou alors c'est terminé ?
Reste. Le bon nouvelle est que il y a des sites indépendants et des presses indépendantes, mais pas si grandes.
Ouais, sans moyens.
Oui, pas si grandes. Donc, le problème que le mainstream média, on a perdu.
Bah
on
ouais.
a perdu le mainstream média.
Ouais,
mais il reste. Donc, en Hongrie, vous pouvez parler, vous pouvez écrire toutes les choses. Le problème que la liberté de marché est contrôlée par des gouvernements et certaines forces autour du gouvernement peuvent manipuler cet marché et comme ça, vous pouvez...
Il n'y a plus moyen de vivre, c'est ça, oui.
Oui, exactement. Mm-hmm.
Qu'allez-vous faire maintenant, Andras? Qu'envisagez-vous pour la suite?
Je suis en train d'écrire un livre, parce que l'année passée, j'ai écrit un livre qui c'était un best-seller, donc j'ai beaucoup de boulot,
oui.
Mais il y a beaucoup de journalistes qui perdent le terrain.
Bah oui.
Et en Hongrie.
Est-ce que, à votre connaissance, avec les autres journalistes d'Index, hein, je parle des vrais journalistes, ceux qui ont démissionné, est-ce que vous allez vous regrouper, tenter de continuer à exercer votre métier autrement, peut-être ?
Peut-être, oui. Mais je ne sais pas encore, mais oui, peut-être. Cette histoire, donc maintenant c'est des jours difficiles, donc on ne sait pas encore qu'est-ce qui s'est passé.
Oui, c'est un peu tôt peut-être, vous êtes encore sous le choc. On a vu, paraît-il, des journalistes qui pleuraient hein, dans la manifestation de vendredi. Daniel Pseni,
oui.
On peut dire que la Hongrie, pays membre de l'Union européenne, est en train de virer à la non-démocratie ?
Bah, elle l'est déjà, parce que, bon, comme le dit Viktor Orban, c'est une démocratie illibérale, voire une démocrature. Et donc, bon, c'est un système un peu bizarre. Mais il faut souligner que le licenciement là, de M. Düll, le rédacteur en chef de Index, est intervenu au lendemain du Conseil européen historique sur la création d'un plan de relance de 750 milliards d'euros, duquel Viktor Orban est revenu en criant victoire. Parce que pendant les négociations, il faut se rappeler qu'Emmanuel Macron et Angela Merkel avaient mené une grande offensive pour que des sanctions soient prises contre les pays qui ne respectent pas l'état de droit. Emmanuel Macron avait même dit, c'est simple, pas d'état de droit, zéro euro. Et la version finale du texte, finalement, parle seulement de mesures en cas de manquement, ce qui a fait crier Orban et les journaux, une grande victoire. Et maintenant, il a les mains libres pour faire ce qu'il veut.
Mmh. La Hongrie qui pointe en 89e position sur 180 au classement de 2020 de la liberté de la presse établie par Reporters sans frontières. En 2010, elle était 23e quand Orban est revenu au pouvoir. Un classement, c'est l'occasion de le dire, hein, dominé par la Norvège, la Finlande et le Danemark. En bas du tableau, on a la Corée du Nord, hein, derrière le Turkménistan et l'Érythrée. Où est la France ? Eh bien, la France est pointée 34e, peut mieux faire. Merci beaucoup, Daniel Pseni, de nous avoir raconté cette situation en Hongrie. Merci aussi à vous, Andras Desjeux. On vous envoie depuis Paris de la force et du courage. Bonne journée à vous à Budapest. Il faut de tout pour faire un monde de médias à suivre. Qui veut gagner des millions ?
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Pascal Clark.
Question, de quel pays vient à l'origine le jeu Qui veut gagner des millions ? Franchement, si je n'avais pas fait appel à une amie nommée Wikipédia, j'aurais perdu. Je pensais le jeu américain, non, il est d'origine britannique, même s'il a connu la gloire à la télé américaine, popularisée par l'animateur Regis Philbin, qui vient de mourir d'ailleurs, c'était la semaine dernière, il avait 88 ans. Philbin avait créé le célèbre gimmick répété pendant 16 ans par Jean-Pierre Foucault.
C'est votre dernier mot.
Si je vous raconte tout ça, c'est que samedi prochain, TF1 propose une soirée qui veut gagner des millions, présentée désormais par Camille Combal, et que mine de rien, le jeu dans sa version française a 20 ans. Bonjour Laurence Jaumont.
Bonjour Pascal Clark.
Vous êtes la productrice historique du jeu depuis son lancement en France en juillet 2000. À l'époque, comment l'aviez-vous découvert dans sa version originale, vous en souvenez ?
Je m'en souviens très bien, c'est un ami qui est rentré d'Angleterre et qui m'a dit « Écoute, je viens de regarder un jeu à la télévision, c'est incroyable. » C'est-à-dire que ce jeu est fabuleux parce qu'il casse tous les codes des jeux. Puisqu'à l'époque, Pascal, vous aviez des jeux qui étaient sur des énormes plateaux, allumés avec une lumière très blanche. Et là, on était dans une sorte d'écran tout noir, avec une musique un peu hitchcockienne. Et pour la première fois, chaque question valait de l'argent et vous pouviez partir quand vous voulez. Et surtout, vous aviez des gens qui allaient s'inscrire, c'est-à-dire les Français pouvaient s'inscrire pour jouer. Et quand ils arrivaient sur les plateaux, il n'y avait pas de casting. Et ça, c'était un jeu, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet OVNI ? Donc à l'époque, nous sommes allés le présenter à Étienne Moujotte, qui était le patron de TF1, et il a dit, dès qu'il a vu, waouh, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Et puis on est arrivé à l'antenne, avec le succès que vous connaissez.
Oui, c'est un jeu aussi qui a une mécanique assez implacable, et d'ailleurs assez universel, je crois qu'il est diffusé ou il a été diffusé dans plus de 120 pays.
Oui.
Il faut préciser que c'est une franchise, c'est-à-dire que quand TF1 a décidé d'adapter Qui veut gagner 10 millions en France, c'était tel quel, par contrat, les règles sont les mêmes partout, la musique, le jeu.
Ah mais absolument, ouais. On avait une Bible et il fallait qu'on s'y conforme, absolument, c'est-à-dire que jusqu'aux tenues de Jean-Pierre Foucault, on devait être habillé avec un costume, avec une cravate qui devait être dans les tons de l'émission. On avait des règles implacables. On ne devait pas y déroger.
Alors ça,
en tout cas, ça, c'était au début.
Oui, ça a peut-être été frustrant quand on produit un tel jeu. Laurence, quelle a été votre marge de manœuvre alors, à vous ?
Eh bien, écoutez, c'était pas frustrant parce que quand on vous donne entre les mains un jeu de cette force-là, vous n'avez pas à vous poser les questions en train de vous dire « Oh bah oui, mais j'aimerais y mettre ma patte ». Non, le jeu était remarquable. Par contre, ce qu'on s'est dit, c'est que les premières questions de 1 à 5, on a mis, nous, une petite patte d'humour. C'est-à-dire qu'on s'est toujours dit que ce jeu est un jeu familial. En télévision, ce qui est très important, c'est de pouvoir réunir toute la famille devant son poste de télé. Donc vous pouviez être avec vos parents, vous-même et vos enfants, trois générations devant la télé. De la question 1 à 5, on y a mis des questions très 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 faciles, mais drôles un peu. Ça, c'est les enfants qui peuvent répondre. Mmh. Et ça permet à nos candidats de se détendre au début, parce que je vous jure que c'est flippant de jouer sur le plateau. Après, de 5 à 10, on va dire que c'est pour tout le monde. Et puis après, on tombe dans des questions avec une vraie culture très difficile. Ça veut dire qu'on avait des questions de tous les niveaux pour tout le monde.
Vous parliez de ces premières questions assez faciles, très faciles, des cadeaux qui permettent d'arriver au premier palier. Oui. Est-ce que, historiquement, il y a beaucoup de gens qui ont chuté, y compris des personnalités qui ont chuté avant le premier palier, et du coup que vous auriez coupé au montage peut-être bien ?
Jamais. Jamais aucune personnalité n'a chuté. Par contre, nous avons eu deux personnes anonymes qui ont chuté avant.
Oui. Et là, c'est la honte
et qui
quand
sont
même.
Mais c'est la honte, un peu, oui.
Un peu, on peut dire le contraire.
Un peu, oui, un peu. Mais on peut, Pascal, quand même, dire que c'est la honte. Mais je vous jure que entre répondre de chez vous sur un canapé, c'est une chose. Quand vous arriviez sur le plateau, musique à fond, musique de qui veut, qui est quand même une musique basée sur votre battement de cœur. et que vous savez que vous avez à la clé 1 million, je vous promets que vous perdez un petit peu toutes vos réactions et même votre pensée. Parce que le truc de qui veut gagner des millions, c'est qu'à partir du moment où je vous pose la question, si vous n'aviez pas de réponse, vous avez régulièrement la réponse. Mais à partir du moment où je vous fais découvrir 4 possibilités de réponse, eh bien, ça vous met le doute et la confusion dans la tête.
Ouais, c'est ça, c'est ça la perversité du jeu. Laurent Jaumont, à l'autre bout de la pyramide, vers le haut, combien de personnes dans cette histoire du jeu ont effectivement gagné, alors je ne sais pas, c'était pas forcément 1 million au début, mais enfin la plus haute somme de la pyramide. C'est arrivé combien de fois ?
Alors, vous avez un garçon qui habitait en Normandie, à Mondeville, qui a gagné à l'époque 4 millions de francs. Et après, vous avez une femme, infirmière, qui malheureusement est décédée aujourd'hui, qui a gagné 1 million d'euros. Elle était infirmière, je me rappelle d'elle, parce que ses deux filles étaient dans le public et c'est un moment inoubliable. C'est-à-dire qu'elle était, elle avait une culture générale absolue, parce que c'est ça aussi qui veut gagner des millions. On a tous des domaines de prédilection, mais pour répondre à qui veut gagner des millions, il faut être un petit peu bon partout.
Mmh. Quel est le joker qui a été le plus utilisé ?
Bah, je ne peux pas vous répondre à ça.
J'essaie de coller un peu hein, quand même.
Le joker le plus utilisé, non, puisque en principe 90% des gens utilisent tous les jokers.
Mmh.
C'est-à-dire que quand vous êtes en bas de la pyramide, de temps en temps, c'est comme ça que ça s'est passé régulièrement. Vous êtes assez bas, vous demandez l'avis du public. C'est-à-dire que ouais, c'est souvent comme ça que ça s'est passé. Mmh. Le 50-50, c'est quand vous hésitez sur deux réponses. Et puis l'appel à un ami, c'est quand même, d'une façon générale, vous l'utilisez quand vous êtes assez haut et que surtout, si vous êtes sur une question, je dis n'importe quoi, sur l'œnologie, si vous avez eu la chance de nous donner dans vos 5 jokers téléphoniques un pote qui est très balèze dans les vins, bah vous savez que vous pouvez l'appeler. Mmh. Donc voilà, ça c'est à peu près comme ça.
Restez encore un peu avec nous, s'il vous plaît, Laurence Jaumont. Que fait-on maintenant ? Je demande le 50-50. Eh bien, il reste pub ou pub, alors pub.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Pascal Clark.
Comme au bon vieux temps, comme cette première fois qui date d'il y a 20 ans sur TF1 samedi soir prochain, un jeu qui veut gagner des millions. Et tout ce temps-là, en France, il n'y a eu que 2 présentateurs, Camille Combal, depuis environ 1 an et demi, historiquement. Et pendant longtemps, c'est votre dernier mot, Jean-Pierre, c'était Jean-Pierre Foucault. Bonjour, vous êtes là, Jean-Pierre Foucault ?
Bonjour Pascal.
Je vous présente pas Laurence Jaumont, elle n'était pas au courant, c'est une surprise. Hein.
Bonjour mademoiselle.
Bonjour monsieur.
Voilà, retrouvaille en direct. Jean-Pierre Foucault, combien d'années de qui veut gagner des millions à votre actif ?
Écoutez, 19 ans.
Mmh.
19 ans de qui veut gagner des millions, comme l'a dit Laurence, une fois 1 million d'euros. Laurence a oublié Louis, qui a gagné 4 millions de francs également,
bah
alors, après
ah,
notre jeune
raison.
Normand.
Il a raison, voilà. J'ai oublié Louis.
Ah bah alors Louis ne serait pas content. Hein. jamais de lassitude, Jean-Pierre Foucault. Honnêtement, maintenant, il y a prescription.
Absolument aucune lassitude, parce que l'intérêt, c'est qu'à chaque fois, on a des candidats différents, bien entendu. Et pourquoi pas de lassitude ? Parce que, tout comme les candidats, je découvrais des questions en même temps qu'eux. Je me suis toujours interdit de demander les questions à Laurence, qui d'ailleurs ne me les aurait pas données. Surtout pas les réponses. Comme ça, ça me permettait de jouer. Et moi, j'ai eu la chance d'être sélectionné pendant 19 ans.
Oui, c'est ça. Alors, vous n'avez rien gagné en même temps. Enfin, si, à part votre salaire qui ne me regarde pas. Alors,
absolument pas.
Pas de lassitude, mais on le disait, peu de latitude, puisque c'est une franchise, cette émission. Et pourtant, vous avez réussi à imprimer votre marque. Comment ? Par quel biais ?
Écoutez, je ne sais pas. Entre le moment où Virginie, que vous connaissez, m'a envoyé la vidéo de Regis Philbin, qui d'ailleurs nous a quittés la semaine dernière.
Votre fille, donc Virginie Foucault, hein, qu'on salue. Ouais.
Du jeu américain. Et le choix d'Étienne Bougeot et de Laurence de mettre à l'antenne qui veut gagner des millions. Je pense que on avait notre humour à la française, on avait nos questions typiquement françaises, on avait une rédaction, Laurence le sait très bien puisqu'elle l'a dirigée avec Massa, une rédaction exceptionnelle qui faisait des questions. Le spectacle déjà était dans la question, c'est pour ça qu'il n'y a pas de lassitude, malgré les contraintes.
Les contraintes, pas comme, ah oui, comme les choses obligées, quoi, les règles immuables, c'est ça.
Oui, mais écoutez, les contraintes immuables, c'est plutôt confortable. À mon costume, je savais comment il était, le décor, la musique. C'est la première fois où, dans un jeu, il n'y avait pas de chrono. C'est la première fois où, dans un jeu, vous avez la réponse sous les yeux. Et c'était la première fois en France où on gagnait autant d'argent.
Mmh. C'est votre dernier mot, ce gimmick très efficace. Vous en avez soupé, Jean-Pierre Foucault, la vérité.
Non, j'ai eu droit ce matin à 7h10 dans l'avion.
Sérieusement?
L'hôtesse est venue me voir et discrètement m'a dit « Vous voulez un verre d'eau, c'est votre dernier mot ?» Je lui ai dit « Vous êtes la première de la journée, sans doute pas la dernière. »
Tous les jours, honnêtement.
Mais vous savez, il vaut mieux ça que l'indifférence.
Oui, on peut le prendre comme ça, mais enfin bon, je pense que voilà, ça vous collera à la peau.
Pendant des années, on m'a dit « Sacré choucroute, sacré baguette ». Sacré pantalon, tout ce que vous voulez. Maintenant, c'est votre dernier mot, ça va. Hein. Oui, c'est-à-dire deux phrases en 50 ans de carrière, c'est pas trop mal.
Pour terminer, Jean-Pierre Foucault, vous continuez à présenter le concours Miss France, c'est ça?
Oui, on ne peut rien vous cacher. Pourquoi vous voulez participer?
C'est un peu tard, je crois.
Mais non.
Un peu tard et
il
un peu
tard,
peut-être. Écoutez, je vous souhaite de belles vacances, Jean-Pierre Foucault, et merci d'avoir été en ligne avec nous. Un dernier mot, peut-être?
Oui. Un dernier mot pour dire que travailler avec Laurence Jemant, c'est d'un confort, d'un luxe inouï, parce que rien ne peut vous arriver.
Ah, il y a le téléphone qui sonne, hein, vous feriez bien de répondre.
Oui, c'est sans doute la concurrence.
Merci Jean-Pierre. Merci. Vraiment. Et moi, je veux rajouter quelque chose. Et ce n'est pas parce qu'il est de l'autre côté de la ligne. Je voudrais vous dire quelque chose, Pascal. Pour travailler avec Jean-Pierre, c'est un animateur culte de la télévision française. Et quand nous avons décidé que c'était Jean-Pierre Foucault qui allait animer, nous avons dû lui dire qu'il allait devoir faire des grands silences. Or, un animateur, qu'est-ce qu'on lui demande? C'est d'occuper l'antenne. Sauf que là, on a dit à Jean-Pierre, tu vas occuper l'antenne avec toi, ta façon de présenter, mais il va falloir aussi que tu gardes des énormes silences. Et Jean-Pierre, il a tout de suite capté le truc, il a compris, il ne s'est pas dit, non, il va falloir quand même que je parle, que je sois là. Mmh. Et par ses silences, il a fait douter des millions de gens, car quand Jean-Pierre mettait son index sur sa bouche, il regardait la question, il regardait le candidat, il regardait la question. Alors, le candidat, il ne savait même plus où il habitait.
Ah, bah, Jean-Pierre Foucault, c'était acteur studio, quoi, vraiment.
C'est quand même terrible. C'est quand même terrible dans
le métier
d'avoir du
part,
succès uniquement quand on se fait.
Cette réussite, bien évidemment. Donc, voilà, merci. Je voulais juste rajouter ça et j'embrasse fort.
Voilà, tellement d'amour. Hein, ce matin sur Europe 1, ça fait plaisir. Oui. Bonnes vacances, Jean-Pierre Foucault. Laurence Jomont, samedi soir, oui. Soirée spéciale sur TF1. Et qui veut gagner la bande-annonce?
Samedi soir, venez jouer à Qui veut gagner des millions.
J'ai le cœur qui bat, une force.
Qui je le connais bien, c'est un diesel.
Tu vas voir le diesel quand même être pété la gueule.
Même pendant les vacances, Camille Combal a bien préparé ses questions.
Essayez de me donner des bonnes questions, pas des trucs à la con.
C'est un peu dyslexique, donc ça risque d'être marrant.
Juliette m'a dit, elle avait les pétoches.
Et ses invités sont prêts à tout pour y répondre.
Je peux appeler Macron?
Alors nous, on n'a pas le portable, mais si vous l'avez, on l'appelle.
Vous me stressez, est-ce que si vous me dites ça, c'est que je suis moi.
Voilà, même pendant les vacances et même pendant le virus, hein, qui veut gagner des millions.
Oui.
Est-ce que le Covid a changé les règles?
Oui.
Quel pouvoir, hein, quand même, ce Covid. Quelles mesures sanitaires pour l'émission qu'on va voir samedi soir?
Eh bien, écoutez, quand TF1 a décidé de faire Qui veut gagner des millions à la maison, ils ont immédiatement appelé Camille pour lui demander s'il était d'accord de
Camille
jouer...
Combal.
Oui, Camille Combal, pardon.
Non,
de
plus.
Jouer deux chez lui. Camille a dit « Oh oui !» Il était mais absolument ravi. Donc, si vous voulez, il y avait Camille qui était chez lui, les invités qui restaient chez eux confinés. Moi, j'étais chez moi, on m'avait monté le plateau à la maison et le réalisateur et l'équipe étaient sur le plateau, mais totalement avec les précautions sanitaires. Et puis, quand on a vu nos jokers, on a gardé notre jeu tel qu'il était. Mmh. Pour les vedettes qui venaient jouer, ce qui était différent, c'est qu'ils ne jouaient pas en duo, mais seuls. Donc, ils avaient alors encore plus peur, mais quand on leur a dit que c'était pour des associations qui aidaient les personnes les plus touchées durant le confinement, c'est-à-dire la Fondation des femmes, malheureusement, avec les violences conjugales, les Restos du cœur, qui étaient très touchés, les gens dans la rue, ils sont encore plus touchés, ou les gens avec des tout petits revenus, les hôpitaux de Paris, hôpitaux de France. Donc, TF1 a voulu concentrer ça sur ces associations, mais on s'est dit, il va y avoir un problème. C'est la vie du public. Il n'y a pas de public.
Ah, ben oui, il n'y a pas de public. Alors ?
Et pas de plateau. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on a décidé de faire l'appel à la maison. C'est-à-dire qu'on disait aux Français de s'inscrire sur une ligne s'ils voulaient aider par hasard. Hein, on les tirait au sort des vedettes.
Merci.
Quand on en a parlé à Camille Combal, il a dit « J'adore l'idée pour pouvoir parler avec des anonymes chez eux. »
Merci beaucoup. On a terminé. Je suis désolée. Merci, Laurence Jomont. D'avoir retracé la mémoire de ce jeu qu'on verra encore samedi soir sur TF1, qui veut gagner des millions. On arrive doucement vers 10h sur Europe 1. Si ça se trouve, vous vous en fichez complètement parce que vous êtes en vacances, alors profitez. Le comédien Jonathan Lambert est attendu dans la deuxième heure de Culture Média d'été. À tout de suite.